affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Notre émission de ce jour va être consacrée à l'art, mais elle ne va pas seulement nous mener dans les musées, mais plutôt et de préférence au fil des rues, à la découverte d'un mouvement artistique récent, puisqu'il date de la fin du XXe siècle, et que l'on nomme l'art urbain, ou en anglais le street art. Pour en parler, nous avons la chance de recevoir dans notre studio Lydia Arambourg. Madame Arambourg, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Madame Arambourg, vous êtes historienne de l'art, vous êtes critique d'art, vous êtes également correspondante de l'Académie des Beaux-Arts et vous coordonnez la réalisation chaque trimestre de la lettre d'information de l'Académie des Beaux-Arts, dont précisément l'un des derniers numéros était consacré à cet art urbain, cet art de la rue. Pour commencer, je voudrais qu'on dissipe d'emblée un éventuel malentendu. Cet art urbain auquel nous allons consacrer une émission n'a bien sûr rien à voir, quoique, avec ces graffitis et tags qui peuvent souiller les murs des grandes métropoles mondiales, n'est-ce pas ?
On en part, mais le mouvement est entré aussi dans l'histoire de l'art maintenant. Donc l'art de la rue, nous entrons justement dans un univers spécifique qui a ses codes de fonctionnement, de lecture, de décryptage et de visibilité. Donc le moindre des paradoxes, c'est que justement aujourd'hui, ce mode d'expression soit passé de l'interdit au statut de reconnaissance artistique. Donc c'est toute l'ambiguïté.
Parlez-nous de sa genèse, alors, justement.
Alors, la genèse, donc, il y a le tag, il y a le graffiti, le street art, l'art de la rue, l'art urbain, tout ça, ce sont des termes qu'on va essayer de clarifier. Et pour éviter toute confusion, je pense qu'effectivement, il faut commencer par la genèse de ce mouvement, qui est un mouvement militant et que rien ne laissait prévoir dans les années 70 aux États-Unis. Ce mouvement va devenir plus tard international sous des appellations mutantes. Mais comment a-t-il acquis ses lettres de noblesse ? Alors, il y a deux courants qu'il faut bien différencier et qui oscillent justement en allant du graffiti au street art. À l'origine, ce sont des adolescents qui sont en mal de reconnaissance et qui, donc, pour trouver une visibilité, vont s'amuser, mais vraiment s'amuser à taguer les murs, c'est-à-dire qu'ils vont imprimer sur les murs de la ville une image, un signe. Et le tag, c'est le surnom d'un de ces intervenants, qui reste anonyme. Parce qu'une des spécificités aussi de cet art de la rue au départ, c'est qu'il est anonyme. Et ensuite, il sera revendiqué par vraiment des appellations sous lesquelles se cachent et se révèlent des artistes.
Donc au départ, pour résumer, nous trouvons aux États-Unis, j'imagine, une grande métropole comme New York ou Philadelphie.
Absolument.
Et des adolescents.
Nous sommes dans les années 60 et le premier tag, celui que vraiment on reconnaît comme étant l'initiateur de ce mouvement qui est complètement incontrôlable, c'est un anonyme qui s'appelle Cornbread à Philadelphie et qui est un garçon malheureux en amour et qui, pour se faire remarquer de sa belle, va donc taguer un B, qui est donc son initiale, et donc tout par-delà, si vous voulez. Alors, c'est un petit peu réducteur.
C'est une reconstruction a posteriori.
Ben oui, ce B, on va le remarquer. Bon. Et puis, on enchaîne tout de suite donc à New York, à la fin des années 60. Alors, les tags se généralisent, ils envahissent les rames du métro et il y a un coursier. C'est une très jolie histoire. C'est un coursier qui livre donc peut-être des pizzas ou d'autres choses et qui, là aussi, prend l'habitude, à chaque fois qu'il arrive à l'adresse à laquelle il doit livrer son paquet, eh bien, il inscrit là aussi, son diminutif Taki, suivi du numéro 183, qui est en fait le numéro de la rue qu'il habite à Hooper, à New York. Alors, vous voyez, donc à chaque fois, c'est une reconnaissance, une façon de se faire idée, d'exister, d'identifier sa propre personne à un environnement. Et voilà. Alors, donc, les daggers vont très vite se développer parce que ça devient des clans, ça devient, vous savez, comme dans les banlieues, il y a des clans, il y a des bandes, en quelque sorte.
Des gangs.
Des bandes et des gangs qui vont se constituer. Et alors, ils vont avoir tous une identité, c'est leur pseudonyme. Et dans le langage des taggers, ce pseudonyme, on appelle ça un blaze. Alors, vous voyez, il y a comme ça des connotations.
Mais là, on est un petit peu dans la phase sombre.
La phase sombre, du mouvement. Oui, parce que tout ça se passe dans des friches industrielles, dans des pays, dans des quartiers défavorisés, je dirais. Et alors, là aussi, autre jolie histoire, si vous voulez, parce que très vite, il y a une inventivité. Les lettres sont très différentes, forcément, suivant les pseudonymes. La couleur arrive. Donc, des signes, c'est comme toute une espèce de vocabulaire qui va se mettre en place. Et alors, il y a une rivalité qui va s'installer entre toutes ces bandes. Et alors, ils envahissent, bien sûr, comme c'est interdit, ça se passe la nuit, il faut faire très vite. Et quels sont les lieux où ils peuvent le faire ? Ce sont les trains, ce sont les métros qui roulent tard, ce sont les couloirs de ces métros et de ces trains, et les gares également. Et alors, on s'est aperçu, parce que tout ça a été quand même plus ou moins conservé, hein, il y a eu des observateurs sur le plan sociologique, il y a des gens qui commencent à observer tout ça, c'est qu'on s'est aperçu que le train qui faisait New York-Brooklyn, eh bien, de jour en jour, les graffitis étaient différents. Ça changeait à chaque fois, c'est-à-dire que les bandes se communiquaient, c'était comme une sorte, maintenant il y a les portables, ils communiquaient à travers leurs tags. Alors ça, c'était aussi quelque chose d'assez nouveau, enfin, et qui installait socialement aussi cette pratique, si vous voulez.
Donc on est entre l'émulation, la rivalité,
oui,
la compétition, voire l'affrontement.
Il y a tout ça, mais tout ça reste dans l'illégalité, bien évidemment. Alors, comment
mais
on va
pas nécessairement dans la violence.
Non, parce que je ne pense pas que c'était violent. C'était violent par rapport à la dégradation, si vous voulez. C'est là où, justement, il y avait des interdits que la loi pouvait les sanctionner. Donc, des amendes ou même la prison, je ne sais pas. Mais c'était ça.
Dans cet affrontement artistique, puisque finalement il s'agit de là, s'inscrire dans le paysage, est-ce qu'assez rapidement, puisqu'il y a cette compétition, est-ce qu'elle va sur le terrain de la maestria et pas seulement de l'extension d'un territoire comme on pourrait le croire ?
Alors justement, c'est que, vous voyez, c'est ça qui est quand même assez curieux, c'est qu'entre eux, ils se rendent compte de ceux qui ont du talent et de ceux qui ont un geste qui les met au-dessus. Alors, il y en a deux. Je vais citer les deux noms parce que tout ça, c'est dans l'histoire maintenant. Hein. Alors, il y a deux graffeurs qui vont sortir de l'anonymat. Il y a un garçon qui s'appelle Blad. Alors, toujours, hein, ce sont des pseudonymes. Hein, c'est des noms qu'ils se donnent. Et on les lut le roi des lignes 2 et 4 du métro. Et puis, il y en a un autre, en 75, qui se fait appeler Phase 2, et qui est proclamé roi du style, parce qu'il renouvelle à chaque fois son écriture. Alors, dans les années...
Même dans les groupes qui créent des contre-cultures, des hiérarchies se mettent en place.
Voilà. Alors, vous voyez, c'est ça aussi qui est quand même assez curieux, parce qu'on approche comme ça, à petits pas, d'une expression qui n'est pas artistique au départ, mais qui va se révéler quand même avec une revendication artistique progressivement. Alors, dans les années... Pardon. Dans les
oui,
années 4.
Et qui se structure.
Absolument.
Et avec, j'imagine, donc, des modèles, des outils pour évaluer la qualité des œuvres.
Bien sûr, c'est que tout ça est lié à un apprentissage et puis à l'apparition de techniques qu'ils vont s'approprier. Donc, en ayant quand même une certaine intuition et des facilités peut-être à pratiquer le pochoir très vite, de pratiquer l'aérosol et d'avoir un geste assez sûr parce qu'ils jouent à la fois sur ce qui est complètement fermé par une ligne, c'est-à-dire le signe, et on met la couleur, et puis d'autres au contraire qui débordent et qui font une sorte d'explosion de l'image.
Vous disiez que c'était interdit, bien évidemment, parce qu'il y a une part de dégradation de biens ou de mobilier public. Voilà, en tout cas, ça peut être interprété comme tel. Ça jouera un très grand rôle, si j'ai bien compris, dans l'extension des techniques.
Eh oui, bien sûr. Alors, comment ça arrive en Europe? Parce que là, on a parlé des États-Unis. Alors, en Europe, il y a peut-être aussi des manifestations isolées. Mais il y a une grande tournée mondiale, des clashs. Bon, c'est un groupe, c'est un ensemble, en 81. Et
qui... Oui, un groupe de rock.
Oui, oui. Et alors, donc, dans ce groupe, il y a un personnage important. Maintenant, son nom est devenu célèbre dans cet univers, c'est Futura. Et Futura, il a partagé son atelier à New York avec Basquiat et Kessaring. Alors, vous voyez, là aussi, Basquiat et Kessaring, qui sont en fait des artistes bon, qu'on va reconnaître à part entière, mais qui sont issus vraiment, parce que Basquiat a pratiqué aussi le tag dans la rue, comme anonyme, avec toute cette jeunesse à laquelle il appartient.
Mais il est déjà reconnu.
Et alors, Futura, c'est vraiment le premier qui va passer des murs à la galerie, parce que très vite... Il y a des galeries qui ont du flair, on va dire, et qui pressentent, justement, qui
sentent... Que quelque chose est en train de naître.
Voilà, et qui sentent dans certains qu'il y a une patte d'un artiste. Bon, alors Futura, c'est vraiment le premier. Alors, on va avancer un petit peu. Donc, c'est la période de répression et de l'exil. Donc, tous ces artistes américains vont plus ou moins arriver en Europe. Et il y a une nouvelle génération.
Je crois que ça le correspond dans la période où à New York se met en place la politique dite de tolérance zéro. Non ?
Voilà, c'est ça. Exactement. Oui, oui, oui. Et donc, la nouvelle génération assure la relève et ça passe par Berlin. Et à Berlin, eh bien, vous savez
qu'il y a un support
qui ne pouvait que les séduire, le fameux mur, et qui, à sa chute en 89, va faire l'objet de supports rêvés pour tous ces jeunes qui sont en mal de visibilité. Et alors à Paris, il y a également des artistes qui émergent. Et alors ça se passe, les points de départ, comme toujours, ce sont des chantiers. Donc il y a les terrains vagues à Stalingrad, et puis il y a surtout les fameuses palissades du grand chantier du Nouveau Louvre. Parce qu'alors là aussi, la nuit, il n'y a personne, tout est absolument accessible, enfin on enjambe. Et tout ça fait qu'il y a vraiment un matériau là qui les attend. Donc,
et tout ça au pied du Louvre, ce qui ne manque pas.
Oui, alors il y avait de l'humour et puis je trouve que c'est... oui, c'est amusant parce que la grande galerie du Louvre, qui était quand même là où logeaient tous les artistes de l'Académie royale de peinture et de sculpture, qui avaient leur atelier là, hein, faut pas oublier Chardin, Poussin, ils étaient tous là. Et puis voilà, ces jeunes réactionnaires qui sont tout à côté. Alors, le tournant radical, et si on veut parler vraiment du street art après, bon, c'est l'art de la rue, on le reconnaît comme étant un peu plus officiel. Il y a une grande figure que je voudrais évoquer, qu'il ne faudrait pas oublier, c'est un de nos grands artistes français, c'est Jacques Villéglé, qui fait partie des nouveaux réalistes, et qui, lui, se reconnaît vraiment comme un des pionniers de ce street art. Parce que quelle a été l'action et quelle était la façon de travailler de Villéglé au départ, c'était justement d'être dans la rue, et notamment dans les métros, et de voir sur les palissades et sur les murs des stations de métro des affiches qui étaient plus ou moins déchirées, arrachées, et il trouvait des beautés de couleurs, et il a commencé par décoller ces images avec son copain Raymond Hinz. Et alors, forcément, ça leur donnait une matière toute faite. Mais le rapport avec le street art, c'est que Villéglé isolait les lettres et il essayait de recomposer. Donc, c'était une recomposition parce qu'il décollait et ensuite il recollait. Alors, c'est là où après ça s'arrête parce qu'effectivement, il ne faut pas confondre le street art avec le collage parce que là, on est avec une autre forme d'intervention et une autre technique. Mais Jacques Villéglé, comme l'a appelé son ami Pierre Restany, c'était l'arpenteur du lacéré anonyme, parce qu'on est toujours dans l'anonymat. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, donc...
Vous avez parlé du collage, qui est une technique différente. Toutefois, dans le street art, il y a aussi une palette incroyable de façons de faire. Ça ne se limite absolument pas, comme on pourrait le croire, à l'aérosol de peinture. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu ?
Alors là, on franchit des étapes et j'aurais peut-être voulu continuer peut-être à vous donner quelques...
Parce que là, nous y reviendrons.
Deux étapes, puis rapidement. Parce que là, on passe vraiment d'un geste sauvage et revendicateur, et bien sûr subversif, à une pratique qui va être vraiment pensée et qui va devenir professionnelle. Alors, nous y arrivons justement. Les nouvelles techniques qui se renouvellent et qui vont surtout identifier le street art comme étant un art à part entière. Donc, le pochoir, qui arrive en France, mais qui était déjà pratiqué ici, avec les dadas, vous pensez bien que c'est pas une chose nouvelle pour les artistes du dadaïsme, du surréalisme, le collage, on connaît, donc on n'en fait pas l'historique. Mais la première vague du street art, elle est issue de cette technique du pochoir. Alors, si vous souhaitez que je donne 2-3 noms pour quand
volontiers,
même les situer, parce que je ne sais pas si nos éditeurs les connaissent, ceux
pas
qui s'y intéressent le connaissent. Moi, j'avoue très sincèrement que c'était un domaine que je connaissais quasiment pas et que j'en restais au tag et que j'ai découvert quand même des univers qui m'ont impressionnée. Mais si j'ai été impressionnée, j'en parlerai un petit peu plus tard en évoquant certains noms, c'est qu'en fait, ce qui m'a séduit, c'est encore une fois des artistes qui avaient une formation tout de même et qui savaient travailler avec leurs acquis techniques, c'est-à-dire aussi bien avec le dessin, avec la couleur, mais aussi avec d'autres matériaux, la photo, et qui trouvaient leur propre langage, leur propre monde. Parce que quand on a effectivement sur les murs, ce que nous voyons d'ailleurs malheureusement, qui enlaidit tout de même nos villes, sur les murs, dès qu'il y a un endroit, et sur les toits, ils sont acrobates, parce que vraiment, ils arrivent à accéder à des endroits même difficiles. Et on se dit, mais bon, ben oui, mais c'est pas grand-chose, vous voyez, un petit peu, c'était ça. Mais ça joue aussi sur la répétition. Bon, alors, pour en revenir à ces quelques noms, la première vague du street art en France, c'est Bleck le Rat. Alors, ils ont toujours des noms quand même assez provocants aussi. Mais voyez, cet artiste, il se forme auprès de Couteau, c'est pas rien quand même. De Lucien Couteau, il apprend la gravure, et puis d'Ayès pour la peinture. Et alors, très vite, il va être poursuivi parce qu'il gêne beaucoup. Il envahit les murs, on le retrouve partout, donc il est condamné. Il ne va plus peindre directement sur les murs. Et c'est ensuite que là, il passe du mur, justement, de la rue à la galerie. Vous voyez ? Le passage se fait très vite. Alors, il y en a un autre, c'est Jeff Aérosol, dont on parle pas mal aussi, qui, lui, va se faire remarquer sur la Grande Muraille de Chine. Mais alors, les Parisiens le connaissent très, très bien, parce que c'est lui qui a fait cette fresque monumentale sur la place Stravinsky, à l'emplacement de l'IRCAM, devant la fontaine de Tinguely et de Niki de Saint-Phalle. Donc, nous continuons à voir sa fresque tous les jours quand nous passons devant. Et ce sont des fresques monumentales à chaque fois, parce qu'on est dans le monumental. Cette fois-ci, ce qui est important, c'est de développer une histoire, c'est de raconter. Alors là, il y a aussi un élément narratif important. Et ce Jeff Aérosol, il s'est identifié, il s'est imposé par des grands personnages, presque grandeur nature, qui sont en noir et blanc et qui forcément, de par cette monumentalité, impressionnent parce qu'on les voit de très très loin. Alors, il y en a d'autres que l'on connaît très bien, c'est Mystique, qui couvre les murs de Paris avec sa petite figurine, sa petite silhouette, on la reconnaît très bien avec ses cheveux. Il y a Jérôme Mesnager, ces petits personnages aussi qu'on a longtemps vus sur les palissades, on en voit encore de temps en temps dans certains quartiers. Il y a Speedy Graffito, enfin voilà, tout ça ce sont des noms qui sont entrés, je dirais, dans l'histoire. La deuxième génération, elle va être... elle va développer ce côté artistique, c'est-à-dire le raffinement, les détails, mais aussi être plus dans la recherche de techniques un peu sophistiquées, si vous voulez. Alors là, il y en a également pas mal, mais je ne vais pas tous les citer. Alors c'est en Italie, c'est en Angleterre. En France, on a Réro, et puis on a Banksy en Angleterre. Alors, on va revenir...
L'un des plus célèbres...
Pardon ?
Un des plus célèbres entre tous, Banksy.
Banksy est très, très, très célèbre.
À la fois célèbre et parfaitement inconnu, puisqu'on ne sait toujours pas...
L'identité est secrète. On ne sait toujours pas qui se cache derrière ce personnage. Et lui, alors, c'est quelqu'un d'extrêmement militant, très offensif, qui dénonce tout, aussi bien sur le plan de la justice, sur le plan des guerres, sur le plan de la faim dans le monde. Enfin, c'est quelqu'un de très, très engagé, très violent et qui continue. Et donc, c'est une personnalité, effectivement. Alors le collage, on l'évoquait tout à l'heure, il est issu de l'affichage et en fait il endigue, si vous voulez, la répression, parce que ça se fait très vite et on n'a pas le temps de voir qui fait quoi.
Mais c'est ça, la répression a joué un rôle dans l'évolution des techniques.
Voilà, exactement. Et ça, ce collage, il est important.
On prépare tout dans son atelier et ensuite il ne reste plus qu'à aller apposer l'affiche.
Exactement. Alors c'est là, vous voyez, où il y a déjà un déplacement, parce qu'on n'est plus dans la rue, on est dans l'atelier, on travaille et hop, après... On va faire sa petite affaire,
oui,
en quelque sorte.
On est sur un support, et si ce support peut être collé dans la rue, il peut également être exposé, posé sur des cimaises.
Absolument. C'est pourquoi c'est la question aussi que se posent les personnes qui sont effectivement à s'intéresser à ce phénomène. Alors on s'est dit, mais comment, justement, puisque c'est l'art de la rue, comment on peut retrouver ces œuvres dans une galerie et puis maintenant en salle
des
ventes,
oui.
Au musée et en salle des ventes. Vous voyez, donc c'est jamais très simple. Il y a toujours cette ambiguïté, ce côté, ce paradoxe qui est là en permanence. Alors avant d'avancer encore un petit peu, je voudrais citer un nom parce que tout le monde en a entendu parler. C'est Chipard Ferret, qui a joué un rôle important au moment de la campagne de Barack Obama, parce que c'est son spot, son icône de la campagne, qui, dit-on, aurait peut-être facilité les élections du président des États-Unis. En tous les cas, il a quand même mis dans l'espace, dans la rue, partout, 300 000 autocollants et 500 000 affiches, le poster hop que tout le monde a vu et que tout le monde voyait. Alors ça a été quand même une campagne publicitaire et puis une opportunité sur le plan de la communication.
Est-ce que c'est rentré dans les fonds de campagne ?
Je ne sais pas du tout. Ça, je ne peux pas répondre.
Je ne connaissais pas l'ampleur des choses. Vous avez 500 000 affiches.
Oui, 500 000 affiches, vous imaginez. Bon, mais ça, c'est à l'image des États-Unis aussi. Alors, en France, alors là, nous entrons dans le temps présent, parce que nous avons en ce moment un de ces street-arteurs, je ne sais pas comment on dit, enfin, un de ces artistes, un de ces représentants du street-art, c'est J.R. J.R. Et tous les Parisiens l'ont vu, sans savoir qui c'était. Lui a commencé dans les banlieues, comme toujours. Hein, c'est le terrain qui leur est favorable, parce que c'est là où ils peuvent le plus se déployer sans être inquiétés.
Il y a davantage de friches aussi.
Exactement, bien évidemment. Donc c'est Montfermeil, c'est Clichy-sous-Bois, mais aussi à Jérusalem et à Paris. Alors à Paris, vous vous souvenez peut-être, sur les quais de la Seine, il y avait, c'était à la hauteur du musée d'Orsay et ça continuait en remontant vers Notre-Dame. J.R. avait collé des photos de modèles anonymes qu'il photographie, si vous voulez, et qu'il alignait comme ça. Alors ça faisait un gigantesque alphabet de visages, de physionomies, de toutes personnes, hommes, femmes, enfants, de toute nationalité, de toute couleur, de toute race, enfin...
Et là, c'était du collage encore. Hein.
Absolument. C'était des photos et c'était collé. Et c'est ce que nous voyons toujours au Panthéon. Cette fameuse calotte, ce dôme qui est resté et qui est un des éléments de son installation au Panthéon, eh bien, c'est une action qu'il a renouvelée justement au moment de la restauration du Panthéon. Il a réalisé 4160 portraits qui ont été installés sur 3000 mètres carrés pour en faire ce qu'il disait être la plus grande galerie d'art au monde. Alors, on n'en voit plus maintenant que, encore une fois, la coupole, hein, elle est visible, on peut tous aller la voir, mais il avait mis dans le Panthéon même, dans l'ancienne église Sainte-Geneviève, donc il avait mis comme un tapis de sol tous ces portraits sur lesquels on était amené à marcher, forcément. Alors, J.R., il y en a un autre que nous pouvons voir dans Paris, que vous devez sûrement voir aussi, que vous remarquez, c'est quelqu'un qui s'appelle Invader, et ce sont ces fameux carreaux de mosaïques qui affectent une forme de jeu vidéo, de repère, vous savez, pour aller...
Le célèbre jeu vidéo qui s'appelait Space Invaders.
Voilà, voilà,
les
voilà.
Les envahisseurs de l'espace.
Exactement, c'est ça. Alors, tout le monde le voit, on voit ça répété un peu partout, à l'entrée d'une rue, en haut d'un immeuble, on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce
Et là,
que
c'est
ça.
De la mosaïque, si je ne
Et c'est de la mosaïque, absolument. Vous voyez, autre technique...
Mosaïque qui reproduit les pixels qui sont ceux d'un écran d'ordinateur de l'époque, évidemment. Aujourd'hui, exactement. La définition d'un écran d'ordinateur, c'est, voilà. c'est très précis, mais à l'époque, voilà. on voyait encore.
Alors, c'est vrai que ça n'a pas fait que la forme un petit peu de... Enfin, je ne sais pas, d'un personnage, on ne sait pas très bien. C'est un ovni.
Un ovni, parce que dans le jeu originel, c'était des petits ovnis qui descendaient et sur lesquels il fallait tirer pour sauver la Terre.
Voilà, voilà.
Vous voyez, ben c'est voyez. Générationnel.
Ah,
je peux décrypter une Invader simplement. Parce que
alors, moi, je ne savais pas ça.
Je suis né dans les années 70 et que j'ai joué à ses premiers jeux vidéo.
Bon, alors, voilà. Donc, on va continuer à évoquer, parce que tout ça s'est vu à Paris. Hein. On a été vraiment témoin de tout ça. Et quand on se promène dans Paris, et ça, c'est le bonheur, le flâneur de Paris, Fargue, c'est des deux rives, le flâneur des deux rives. Et c'est tout à fait ça. C'est qu'on avait ça sous les yeux, non pas pour dire c'est beau, mais c'est que ça nous était familier. Et puis subitement, les années passant, on nous dit « Ah, mais vous savez, maintenant, eh bien voilà, ce sont des œuvres, ce sont des images qui rentrent dans notre quotidien. Voilà. » Alors, il y avait la tour Paris 13. Alors, dans le 13e arrondissement, il y avait une tour qui avait besoin d'être démolie, qui n'était pas gardée pour des quantités de raisons. C'était donc là aussi un lieu offert aux tagueurs. Et donc, ils s'en sont emparés. Et là, ce sont 100 artistes du monde entier qui sont venus, qui ont investi cette tour et qui ont travaillé sur les 9 étages. Et ça correspondait à 36 appartements. Et ils ont eu le soutien quand même de la mairie du 13e. Alors c'est là, vous voyez, où on commence à rentrer dans quelque chose d'officiel et d'institutionnel. Alors, la mairie, très bien, la mairie, c'est la ville de Paris, mais il y a aussi une galerie qui s'est mise sur les rangs, et c'est la galerie Itinérance. Et donc là, ça commence, parce qu'on commence à voir...
Quand on a à la fois l'État et le marché avec soi, ça veut dire qu'on n'est plus tout à fait dans les marges.
Exactement. Eh bien, justement, mais c'est là où on va... Vous voyez, on est là toujours sur un fil, c'est très étanche tout ça, parce qu'on passe d'un bord à l'autre, comme on est loin donc de ce petit livreur de pizza qui, qui mettait son nom avec le numéro de sa rue à chaque adresse où il allait livrer. Donc, c'est un projet complètement délirant qui va se reconduire dans un supermarché du 19e arrondissement que deux de ces artistes, parce qu'il y a 100 artistes, mais dans cette centaine, il y a deux artistes qui vont se dégager, c'est Lek et Dem, 189. Ils ont toujours des codes. Et alors, ils vont travailler tous les deux à ce qu'ils vont appeler après le mausolée, c'est-à-dire que c'est un ancien supermarché qui était aussi à l'abandon, destiné à être détruit. Et là, ils l'investissent complètement, et c'est 40 000 mètres carrés de fresques qu'ils vont vraiment... Mais là aussi, c'est une sorte de reconnaissance, parce qu'on les laisse faire. Ils se sont appropriés le lieu, et ce lieu devient leur atelier à ciel ouvert, en quelque sorte, vous voyez, dans la ville. Ils vont faire la même chose au Palais de Tokyo. Donc, tout ça devient tout à fait officiel. Alors, il y a un autre groupe qui va également faire un peu la même chose à l'intersection de la rue d'Oberkampf et de la rue Saint-Maur. Alors, c'est un collectif qui s'appelle Le Mur. Et c'est l'acronyme, en fait, pour dire modulable, urbain, réactif. Et c'est en 2007. Donc, vous voyez, on se rapproche de notre époque. Et là, c'est vraiment un affichage publicitaire qu'ils font avec des œuvres à eux. Ils sont 24. Et c'est un véritable musée en plein air. Donc, on n'est plus du tout dans cette relation interdite.
Ça ne se fait plus entre chien et loup.
Non, plus du tout. Plus du tout.
Sous
là, on passe vraiment à autre chose.
C'est pas un crime en soi, d'ailleurs.
Non.
On est obligé de rester tout le temps dans les marges. Mais la question qui me venait, on parle d'institutionnalisation du mouvement.
Oui.
Que des artistes commencent méconnus, petit à petit gagnent en notoriété, s'institutionnalisent. C'est finalement, je parle sous le contrôle de l'historienne de l'art que vous êtes, c'est quelque chose d'assez banal. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que les nouvelles générations d'artistes de rue. Sont automatiquement, enfin, pratiquant ce type d'art, sont désormais automatiques, peuvent passer à la case maison de vente ou reconnaissance publique sans être passés par la clandestinité et où doivent-ils faire encore leurs armes dans la rue initialement? Est-ce qu'on est vraiment rentré dans une sorte de, non pas de marché, mais de réseau qui peut promouvoir ses propres artistes en passant directement à l'atelier à la maison de vente ou pas?
C'est difficile de donner une réponse aussi radicale, parce que je pense qu'il y a toujours des tagueurs, bien évidemment, qui veulent garder l'anonymat et qui ne tiennent pas du tout à être exploités commercialement, qui ne souhaitent pas rentrer dans le système, si vous voulez, et se retrouver un jour en salle des ventes. Maintenant, c'est vrai que la tentation, elle est grande, parce que sans être attaché au marché de l'art, je vois quand même, je lis et je me rends compte que certains, bon, pour ce qui est des grandes figures, on va dire maintenant historiques, emblématiques, les prix sont absolument phénoménaux. Et en même temps, très vite, parce que ça fonctionne aussi avec des collectionneurs qui sont nés avec ça. Alors, je voudrais évoquer un de ces collectionneurs, justement, qui joue un rôle important dans cette... dans cette accessibilité du street art, c'est Nicolas Laugereau-Lasserre. Nicolas Laugereau-Lasserre s'est passionné pour ce mode d'expression très jeune et très vite, et il a acheté et il allait directement voir les artistes. Alors là aussi, ambiguïté, parce qu'au fond, il allait les voir aussi, ben, appelons ça un atelier, enfin là où il travaillait, bon... Et maintenant, ces œuvres-là, elles sont devenues des œuvres d'art parce qu'elles ont été répertoriées, parce qu'il y a une histoire qui s'est construite à partir de tout ça. Donc, ça constitue maintenant, en effet, un des chapitres de l'art de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. C'est vraiment un mouvement artistique qu'on reconnaît à part entière. Nicolas Laugereau-Lasserre considère, lui, que c'est une expression vraiment de notre temps, aujourd'hui, qui outrepasse tous les modèles traditionnels et de l'école d'art, de l'académie l'école d'art, l'école des beaux-arts, les ateliers d'art et tout ça. Vous savez, c'est une explosion. C'est difficile à cerner un petit peu qui est vraiment reste dans sa vérité, son authenticité par rapport à la rue, et puis d'autres qui, au contraire, parce que il y a bien évidemment le rôle des galeries. Il y a des galeries qui se sont ouvertes et qui font la promotion de ces artistes. Alors, ils passent très vite, vous voyez, d'un bord à l'autre.
Ce qui est assez intéressant dans ce mouvement, au-delà même de l'art, hein, j'avais, en préparant l'émission, j'étais tombé sur un numéro de la Gazette Drouot qui faisait l'apologie du street art également.
Absolument, il y a eu un numéro spécial consacré, absolument.
Et qui démarrait par phrase suivante: « Les sceptiques devront sans doute réviser leur jugement. L'art urbain n'est pas sur le marché un simple feu de paille, mais une tendance partie pour jouer sur le long terme. »
Et oui.
Cela, on le verra. Mmh. Mais un autre point qui est intéressant, c'est que dans la fresque que vous nous avez dressée, les artistes de rue sont d'abord contraints à l'exil par la politique dite de tolérance zéro à New York.
Absolument.
Tolérance zéro, c'est-à-dire qu'au moindre carreau brisé, pouf, c'est la case prison immédiatement. Mm. Donc ils s'exportent dans les autres capitales européennes, ils sont chassés. Mm. Aujourd'hui, ce serait plutôt l'inverse. On constate que les grandes métropoles se les arrachent, leur offrent des friches, des facilités, peut-être tout simplement parce qu'ils sont à la mode et qu'ils plaisent à qui ? Et là, c'est vrai pour les maisons de vente aussi, ils plaisent à qui ? À la génération qui est née dans les années 70-80,
oui, je pense,
qui a grandi avec
qui se reconnaît tout à fait dans ces expressions,
voilà,
bien évidemment.
Qui retrouve le choc esthétique de leur jeunesse,
absolument.
Peut-être le parfum
oui,
de
peut-être une nostalgie aussi.
Mais qui aujourd'hui sont des cadres supérieurs des classes dites inventives,
oui.
Que chacun s'arrache, parce qu'on sait que dans une économie qui est moins manufacturière qu'auparavant,
oui.
Eh bien... il faut absolument les avoir chez soi. Et quand dans le projet de Paris ou de toute autre grande métropole, il y a cette volonté de créer un foisonnement, des croisements entre le monde de l'art, de l'industrie, de la création,
absolument,
de la recherche. On est probablement, quand on voit se déployer tout ça, à la fin quand même du mouvement sauvage et
tout à fait,
revendicateur
tout à fait,
des débuts.
Tout à fait. Et alors, ce qui est quand même assez étrange, c'est que ça ne suppose pas Alors là, c'est un autre débat, mais je vais juste comme ça, le mettre comme ça, juste un petit peu en devant et l'aborder très, 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 très succinctement. Ça n'exige pas de la part de celui qui achète ou de celui qui va recevoir, je ne sais pas, une émotion, je ne sais pas, mais enfin, ça n'exige aucune culture. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous dites c'est générationnel, effectivement, pas besoin de connaître l'histoire de l'art. Donc, c'est là aussi où on est dans une fracture. C'est que c'est une façon aussi peut-être de revendiquer une façon de pouvoir dire et d'imposer et d'affirmer que l'art, c'est pas uniquement l'art dans les musées, c'est pas uniquement réservé à une élite. Je n'aime pas du tout ça parce que c'est faux, mais c'est vrai que ça exige quand même une certaine connaissance, et je pense que plus on connaît et plus on sait comment, d'où ça vient, par exemple une peinture de la Renaissance, comment on l'analyse, comment on la décrypte là aussi, et comment tout ça va venir jusqu'à nous, et tous ces acquis et tous ces bouleversements esthétiques. Bon, tout ça, ça suppose quand même que vous êtes rentré dans cette histoire, que vous savez ce qui se passe, pourquoi il va se passer, pourquoi Cézanne est important par rapport à ce qui le précède, pourquoi les cubistes sont importants quand ils cassent tout et qu'ils mettent tout à plat la perspective sur laquelle tout reposait pendant 3 siècles, 4 siècles de peinture. Donc tout ça, ils n'en ont pas besoin. Ils se disent, je vois une chose, ah ben oui, c'est drôle, ça me plaît, ça m'amuse, et voilà. Et là, il y a eu quand même un travail, je pense, sur le plan du commerce de l'art, il y a eu un travail qui a été fait là. Alors, s'y sont mis les galeries, mais je dois dire aussi qu'il y a eu, mais en tout bien tout honneur, j'entends, hein, bien évidemment, les musées aussi, parce que je voudrais rappeler qu'en 2009, le Grand Palais a accueilli une grande exposition qui s'appelait TAG. Alors là, ça les mettait vraiment, on peut dire, c'était l'institution qui reconnaissait cet art-là. Et puis en 2012 et 2013, au musée de la Poste, l'adresse, musée de la Poste, rue de Vaugirard, une exposition qui les montre tous. Et là, attendez, les entrées explosent. Il n'y a jamais eu autant d'entrées pour une exposition.
Et avec, pour cette exposition, des œuvres créées pour
l'exposition. Pour spécialement, voilà. Alors, vous voyez, encore une fois, le public était manipulé, si je puis dire. Enfin, je dis, hein, je veux rester.
Ah ben, mais une œuvre fabriquée pour une exposition, c'est pas une œuvre d'art.
Ben voilà, bien évidemment. Alors, d'où le méli-mélo, parce que tout de même, on ne sait plus où on est, on ne sait plus où on va. Et dans tout ça, eh bien, je voudrais quand même citer un très grand artiste qui, lui, tout de même, a commencé aussi dans la rue et en revendiquant l'anonymat. Et sans se rentrer dans le marché, même si maintenant il est représenté par une grande galerie à Paris, c'est Ernest Pignon-Ernest. Et ça, tout de même, c'est un immense artiste qui a commencé sauvagement, hein, dans les rues, à Naples notamment, à dessiner sur des grands papiers qu'il venait coller. Au départ, il peint directement. Puis après, ce sont des papiers qu'il colle. Mais tout ça, ce sont des œuvres originales, vous imaginez, qu'il laisse sur place et qui vont se dégrader par la pluie, par le vent, par des gens qui passent, qui, oh, allez, vous savez, le geste vandale, hein, on arrache parce que voilà, c'est comme ça. Hein, et donc, tout ça est arraché. Et alors, progressivement, là aussi, il va y avoir un déplacement, c'est qu'il va y avoir donc, après, l'œuvre faite dans l'atelier et qu'on va coller sur le mur, et puis ensuite, eh bien, ce sont des photos qui sont photographiées, des dessins qu'il fait dans son atelier qui sont ensuite collés dans la rue, et puis on arrive à ce qu'il fait, cette sorte de témoignages et de démonstrations qu'il a faites dans la prison Saint-Paul à Lyon, qui venait d'être désaffectée avant qu'elle soit démolie. Il a fait un acte, un geste social, si vous voulez, à partir de ça. Mais c'est un artiste. Là, on est face à vraiment quelqu'un qui dessine superbement, qui sait travailler les ombres et les lumières pour suggérer les drapés, enfin. Et qui travaille aussi dans cette espèce d'héritage du caravagisme, puisqu'en fait c'était ça, hein, quand il peint ses madones, quand il peint ses vierges, ses femmes qui sont en relation avec la dénonciation des violences faites aux femmes, du sida en Afrique, etc. Tout ça, c'est tout de même fait par quelqu'un qui sait dessiner, c'est ça qui est extraordinaire. Mais au départ, le geste est un geste qui rejoignait celui du tagueur. Donc vous voyez, c'est très complexe.
Il est effectivement beaucoup plus subtil qu'un nombre de...
Bah oui, bien sûr, bien sûr.
Il n'y a pas de doute là-dessus. Et alors, en revanche, même les autres, finalement, est-ce qu'on ne peut pas les raccrocher à une histoire de l'art, les réinsérer dans cette histoire ? Certains considèrent que finalement, le street art, c'est la revanche du figuratif. Qu'en pensez-vous ?
À la revanche du figuratif, mais vous savez que la figuration est...
L'art abstrait étant, parce que vous disiez, voilà, Il y a un aspect plus cérébral hein, dans l'abstraction et l'art.
Dans l'abstraction, oui. Mais la figuration.
Alors que le street art, effectivement, est perceptible immédiatement, on peut dire tiens, ça me plaît.
Le message
est généralement explicite, oui. Voire franchement militant, parce qu'il y a aussi on est à la frontière entre l'art et la propagande, parfois.
Absolument. Bien sûr, parce qu'au départ, c'est militant. Hein, donc,
c'est fait pour être vu.
C'est fait pour être vu. Et puis, ils prennent position, parce que c'est quand même de la revendication. Hein, donc, c'est là aussi, c'est pour ça qu'il y avait cette réaction aussi de la loi. Mais non, pour
mais
ce qui est...
finalement, qu'un grand mouvement artistique soit à la fois populaire et figuratif, est-ce que c'est pas signifiant?
Oui, parce que la figuration, elle a toujours été très vivante. Hein. Vous savez, là, en ce moment, il y a beaucoup d'artistes qui sont attachés au dessin, qui sont attachés à la figure, à représenter, avec des moyens qui sont les leurs, heureusement, qui sont maintenant des moyens d'hommes et d'artistes du XXIe siècle. Ils ne vont pas repeindre et refaire une copie comme on en faisait. Mais... c'est peut-être effectivement plus facile d'accéder à quelque chose que l'on identifie tout de suite. Mais il y a de l'abstraction aussi dans toutes ces manifestations, parce que, j'ai évoqué quelques noms, mais il y en a beaucoup qui restent uniquement au niveau de hiéroglyphes, si vous voulez. Oui. Donc, c'est allusif.
C'est de la calligraphie.
C'est de la calligraphie. Alors là aussi, quand je disais qu'il y avait une rivalité au début à New York, c'était ça. C'est qu'ils diversifiaient leur écriture. Donc, il y avait une écriture cursive, il y avait au contraire une écriture plus rectiligne, une écriture... Et tout ça, c'était des enjeux à la fois pour s'exprimer.
Enfin... Je suis navré, je vous dis tout ce qui me passe par la tête.
Mais c'est bien parce que, voyez,
est-ce qu'on ne peut pas établir des correspondances entre cet art de rue, cet art populaire de rue, et ce qu'on appelle par ailleurs l'art brut?
Eh bien, justement, c'est ça qui serait très intéressant de faire, et je pense que c'est en train d'être un petit peu abordé, c'est qu'effectivement... c'est ténu hein, comme frontière, c'est très très ténu entre effectivement ce qu'on a appelé l'art brut ou l'art singulier, l'art des singuliers, l'art singulier, et l'art de la rue, c'est très très proche. Donc je pense qu'il y a beaucoup de recherches maintenant à faire, maintenant qu'on a isolé des noms et qu'on connaît le parcours de certains. Maintenant, on a de la matière, si vous voulez. Donc, je pense que ce serait l'occasion d'étudier tout ça et de voir effectivement, enfin, parce que l'art singulier, l'art brut, ça vient aussi de personnes qui, alors pour le coup, n'ont jamais mis le pied dans un musée et qui ne connaissent pas l'art. Donc là, il y a une dimension qui est absolument fascinante, parce qu'il y a vraiment des grands artistes, hein, des grands génies même. Il y en a qui sont étonnants. Et qui savent dessiner comme des grands dessinateurs, alors qu'ils n'ont jamais appris. Alors, voilà. Non, mais c'est passionnant tout ça. Ce qu'il faut, c'est éviter effectivement qu'on salisse trop, et pour n'importe quoi, parce que malheureusement, c'est évident, il y a de la dérive, et la dérive, elle est inévitable. Donc c'est pour ça que...
Oui, il faut bien préciser que
la controverse.
Tous les artistes dont on parle ne sont pas du tout dans une.
Dans
la logique de possession de territoire.
Donc la controverse, elle est vive, et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait quand même maintenant une sorte d'historique qui se mette en place, parce que, quelle que soit notre approche et notre sensibilité et la façon dont nous percevons ces œuvres, ou ces images, ne n'ont pas peut-être encore un mot d'œuvre, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est cette controverse qui est très très enracinée, c'est que où commence, où finit l'œuvre d'art, hein, parce que là, on est effectivement dans une transgression. Si on est dans la rue, j'entends. Hein. Quand on a quitté la rue, on n'est plus dans la transgression. Mais on est dans la transgression de la réglementation de l'espace public, passible donc de la loi, donc amende ou même emprisonnement. Hein. Mais cette prolifération des graffitis et des tags qui envahit forcément l'espace urbain, aujourd'hui, certains sont un petit peu isolés et considérés comme étant pouvant accéder au statut d'œuvre d'art. Alors, l'œuvre d'art, ça veut dire que là aussi, autre controverse, c'est que l'œuvre d'art, elle est protégée par le droit d'auteur. Alors, vous voyez, là, ça ouvre encore un autre chapitre. Alors, que faut-il faire? Ne pas détruire, effacer, enfin... Donc, vous voyez, je crois que là, on a ouvert, C'est bien, on a ouvert un dossier et je pense que j'invite vos auditeurs à regarder, à lire cette lettre de l'Académie consacrée à l'art de la rue, à l'art urbain, parce qu'ils retrouveront des pistes, mais il y a un deuxième numéro qu'il faudra faire pour développer encore tout ça, bien évidemment.
Oui, d'autant que le mouvement n'est pas mort, même si je me laissais dire par une connaissance qui s'intéresse beaucoup à l'art, que lorsque je faisais part de l'aspect générationnel de l'art urbain, il me disait, mais oui, tout à fait. Et d'ailleurs, à plus forte raison, le nombre de tags désormais diminue.
C'est vrai qu'on en voit peut-être un peu moins.
On en voit
moins.
Beaucoup moins qu'auparavant.
On en voit moins.
Pas parce que la lutte entre les municipalités, les services de
nettoyage... Non, mais ça s'est déplacé.
D'être gagné par ceci, mais c'est que les modes d'expression des nouvelles générations...
Change.
...se sont déplacés des murs vers les murs immatériels que des réseaux
Exactement,
sociaux.
Exactement, absolument. Oui.
Et d'ores et déjà, en salle de vente, on peut constater qu'arrive une nouvelle génération d'artistes plus jeunes que tous ceux dont nous venons de parler, qui étaient jeunes il y a 20 ans, et qui, eux, sont plutôt attirés vers des formes d'art, elles aussi, immatérielles.
Oui.
Ils sont dans l'art vidéo, dans l'art numérique. Mmh. Alors évidemment, là, ça posera d'autres problèmes de définition de qu'est-ce qu'une œuvre, sa reproductibilité et tout cela, mais... Est-ce que finalement, on n'est pas déjà en train de parler d'un mouvement qui est bien dans l'histoire de l'art
Ça m'inspire cette réflexion, c'est qu'en fait, avec tous ces taggeurs, il y a la main qui travaille. Et donc la main, c'est celle qui était aussi celle de l'homme préhistorique qui peint, ou celui qui va enduire sa main d'un pigment et qui va l'appliquer sur le mur d'une caverne à Lascaux ou à la grotte Chauvet et à Altamira et dans d'autres grottes. Et c'est l'identification, mais elle passe non pas par le nom, elle passe par simplement un symbole. Et tous ces taggeurs, finalement, étaient restés attachés à l'usage de la main. Et ce que vous dites est très intéressant, parce qu'effectivement, maintenant, on quitte ce support et on fait même abstraction du corps lui-même, et ça va passer par quelque chose qu'on ne peut plus sentir, pardon,
oui.
Puisque c'est cérébral, c'est complètement abstrait, c'est un concept, ça se passe dans l'intellect, et ça passe par des techniques, effectivement, qui sont en train de nous dépasser, parce que jusqu'où ça va pouvoir aller. Donc là, je crois qu'ils étaient encore, effectivement, tous ces taggeurs, tous ces jeunes et moins jeunes, eh bien, ils étaient dans l'histoire, dans une histoire quand même encore de l'humanité. Là, maintenant, on entre peut-être plus dans la science-fiction, parce que cette science-fiction, on sent qu'on la vit maintenant aussi. Alors, je crois qu'effectivement, vous voyez, les portes sont ouvertes.
Mais écoutez, j'ai cru que vous allez prononcer le mot, mais je vais le faire. Nous rentrons dans ce qui inspire, d'ailleurs, cette nouvelle génération d'artistes, c'est-à-dire la post-humanité.
Oui, moi, je ne peux pas dire tout, ça,
tout
mais...
Tout cela nous dépasse un petit peu.
Ça me dépasse, moi, complètement. Moi, qui suis tellement attachée à beaucoup de valeurs qui sont éternelles pour moi. Voilà, donc c'est l'humanisme et c'est... voilà, donc... Et puis la poésie est partout, elle est là. Et je crois qu'on peut la déceler aussi chez certains... des artistes comme Roa et Roti, alors qui pour le coup sont vraiment des artistes aussi, parce que ils peignent sur les murs, mais attendez, des tableaux, et ce sont des animaux, et c'est peint avec un réalisme et une beauté des matières qui est stupéfiante. Bon, voilà, donc vous voyez, il y a plein de... l'éventail est très très large, le panel est vraiment très très ouvert.
Merci beaucoup Lydia Rambourg, merci d'avoir dressé cette fresque, d'avoir aussi ouvert des perspectives. Et bien entendu, si l'occasion se présente, nous ouvrirons le chapitre 2 pour voir que sont devenus tous ces jeunes gens, leurs successeurs et ce mouvement qui n'a peut-être finalement pas dit son dernier mot.
Sûrement. Merci monsieur.
Merci à vous. Et donc je rappelle que pour poursuivre donc cette réflexion, avant cette phase de souhaitable et souhaité, nos auditeurs peuvent donc se reporter au numéro 76 de la lettre de l'Académie des Beaux-Arts, qui est disponible au format PDF, lui-même immatériel, sur le site internet donc, de l'Académie des Beaux-Arts. Et bien entendu, tout cela figure sur tous les liens figureront sur le site internet de Canal Académie, que vous connaissez tous. À bientôt pour une prochaine émission.